Europe 1, 15h-16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle est longue et riche, la liste de ces écrivains qui ont transmis le goût de la chose écrite à leur descendance. Depuis Alexandre Dumas, père et fils, on peut remonter par Roger Nimier, Marie Nimier, Pascal Jardin et Alexandre Jardin, Frédéric Dard et Patrice Dard, Henri Kefelec et Yann Kefelec, ou encore Jean-Paul Enthoven et Raphaël Enthoven. Alors, je vous propose donc aujourd'hui d'emboîter le pas de deux écrivains dont l'un est le père de l'autre, à moins qu'on dise que l'autre est le fils du premier. Voilà, je reçois Bernard Werber, qui fait paraître chez Albin Michel La Planète des Chats, et Jonathan Werber, son fils, vous l'avez compris, qui publie chez Plon, Là où les esprits ne dorment jamais, l'incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Tiens, je vais commencer par Jonathan, justement. Bon, Jonathan, recevoir un écrivain planétairement connu ainsi que son fils qui fait paraître son premier roman très réussi, hein, je l'avoue.
Merci.
Forcément, ça interroge sur la question de la filiation. Alors, j'imagine que certains renoncent à écrire quand leur père est écrivain. Bon, d'autres, au contraire, par communauté d'esprit, s'emparent du flambeau. Vous avez tenté d'autres vies, vous, Jonathan, avant d'écrire, ou bien vous saviez que, de toute façon, tout vous ramènerait à l'écriture ?
Alors, je ne savais pas du tout que je reviendrais à l'écriture. Je l'ai su vraiment très tard. J'ai commencé par une formation scientifique, donc un bac S. Ensuite, j'ai fait un an en école d'ingénierie. Et à l'époque, je ne me voyais pas du tout faire écrivain. Je voyais mon père travailler tous les matins et je me disais, c'est quoi ce rythme étrange où on ne va pas au boulot, où on travaille à lui, ses horaires de travail, c'est 9h-13h, où il fait seulement de l'écriture. Ensuite, l'après-midi, en général, il fait d'autres choses, il gère le reste. Et ensuite, après...
Vous trouviez votre père assez déconnecté du monde, c'est ça?
Alors, ma mère a un travail de commercial assez normal et j'ai eu une garde partagée entre les deux. Et donc, du coup, j'ai pu voir vraiment les deux rythmes de vie. Et c'est vrai que, bon... Ça me semblait évident que ma mère avait un rythme de vie normal et que mon père avait un rythme de vie, en tout cas différent. Et en fait, j'ai fait un an d'école d'ingénieur et je me suis aperçu que ce n'était pas la chose qui était faite pour moi. Je m'en rappelle, j'étais vers ma fin d'école d'ingénieur et ça ne me plaisait pas. Et j'en parlais à mon père et il m'avait dit cette phrase qui m'est restée en tête. Il m'a dit « Est-ce que tu dois faire ça les 40 prochaines années de ta vie ?» Et ce à quoi j'ai répondu « Non ». Alors, il m'a posé une autre question qui était tout aussi intéressante. Il m'a fait « Mais du coup, qu'est-ce que tu dois faire pendant les 40 prochaines années de ta vie ?» Et à ce moment-là, je me suis tourné vers le cinéma. J'ai été à l'ESRA, qui est une école de cinéma. Et le cinéma, je trouve ça absolument fabuleux parce qu'on touche à plein de choses. Le cinéma, c'est l'écriture, c'est la photo, c'est la musique, c'est la sculpture, c'est la production, c'est le lien avec les gens. C'est vraiment, en tout cas, pour trouver ce qu'on aime, je trouvais ça fou. Et l'ESRA, ça permet de toucher à tout. Et moi, à ce moment-là, ce qui est assez étonnant, c'est que naturellement, ce qui m'a plu, on avait des cours de tout, mais ce qui m'a vraiment plu, c'était les cours de scénario.
Ah, et c'est ça qui vous relie donc à l'écriture tout naturellement.
Voilà.
Mais même si votre prose et les thèmes sont différents, Jonathan Werber, on reste dans des récits d'aventure très très foisonnants. Alors, on l'écarte comment, l'ombre du père qui a vendu 30 millions de livres, excusez du peu, quand on écrit son tout premier roman ?
À la fin, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est le meilleur livre possible. C'est-à-dire que moi, quand j'écris mon livre, je ne me dis pas « Waouh, il y a l'ombre de mon père qui est là et tout ». Je me dis « J'aimerais faire un livre que j'apprécierais de lire ». Et son ombre, je ne la vois pas vraiment. Le seul moment où je vois son ombre, c'est qu'il y a des moments quand j'ai des produits à peu près finalisés, des plans, je lui fais lire, comme lui me fait lire les siens.
Ouais.
Et son avis est toujours intéressant. Parfois, il n'arrive pas toujours à me dire exactement ce qui ne va pas. Mais s'il me dit que quelque chose ne va pas, je sais qu'il faut regarder, qu'il faut changer. Et il a l'intuition pour ça.
Alors Bernard Werber, vous dites « Ma curiosité est peut-être mon plus grand talent ». Vous avez donc fait de la curiosité un métier, votre métier. Mais est-ce que la transmission de cette curiosité et du goût du romanesque était au cœur de l'éducation que vous avez donnée à Jonathan ?
Ah oui, exactement.
Ah oui.
Je crois qu'on est curieux, on est heureux. Le contraire d'être curieux, ça veut dire être blasé. Si vous êtes blasé, ça veut dire que vous pensez que vous savez tout, vous avez tout compris, donc c'est pas la peine de sortir du livre, vous n'avez qu'à rester chez vous, et si vous savez tout, tout est fini. Par contre, quand on est curieux, ça veut dire qu'on est vide, et qu'on se remplit en permanence, et donc du coup, chaque jour, on apprend des choses, et je crois que nous partageons en tout cas cette envie tous les jours d'apprendre, et vous savez, les anciennes générations, ils s'arrêtaient d'apprendre quand ils sortaient de l'école pour travailler. Et puis après, ils ne faisaient que travailler sur l'élan donné par l'école. Et on a cette chance maintenant, entre les podcasts de philosophie, d'histoire, de science, et tous ces nouveaux outils, d'apprendre tous les jours et d'avoir accès à une connaissance planétaire.
Alors, votre fils, Jonathan, se révèle donc, comme vous, hein, un maître de l'horlogerie dans le roman à suspense. Mais vos terrains de jeu sont quand même assez différents. Parce que vous, Bernard Werber, avec La planète des chats qui clôt votre cycle, hein, votre trilogie sur les chats, vous êtes tel un Jean de La Fontaine 2.0 qui mêle à la fois la science-fiction, la fable et le conte philosophique en choisissant les animaux pour mieux nous parler des hommes dans le monde de demain. Et vous, Jonathan Werber, eh bien, vous nous entraînez dans un roman d'aventure qui ferait le bonheur des producteurs de blockbusters à Hollywood, puisqu'il est vraiment construit comme un thriller et il nous embarque dans l'univers des sœurs Fox, trois sœurs qui ont réellement existé, puisqu'elles ont lancé au 19e siècle aux États-Unis le mouvement du spiritisme qui prétend communier avec les défunts, et mouvement d'ailleurs dont furent adeptes Victor Hugo, George Sand, Alexandre Dumas et Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. On en parlera tout à l'heure. Vos livres sont donc très différents, mais il y a un dénominateur commun. C'est en fait la fascination pour la magie.
Oui, je considère qu'un bon roman, c'est un tour de magie. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis magiciens. Je parlais tout à l'heure avec Eric Antoine, on parle technique de magie, parce qu'un bon roman, c'est à la fin, un lapin qui sort du chapeau. C'est-à-dire qu'il faut créer une diversion. Et la diversion doit tenir en haleine. Et au dernier moment, on dit, eh ben, vous ne l'avez pas vu venir, mais je sors ce lapin que j'avais dans le chapeau depuis le début du tour. Et c'est pour ça que oui, je crois que la magie et les blagues sont une énorme source de structure qui fonctionne, de structure romanesque qui fonctionne.
Oui, mais alors vous dites, un bon roman, c'est un tour de magie, mais pas que ça, c'est pas que technique. C'est-à-dire que vos romans, à l'un et l'autre, sont infusés par la magie. Parce qu'il y a de l'ésotérisme, il y a du spiritisme.
Et, une magicienne, oui.
Et voilà, c'est une prestidigitatrice, son héroïne. Votre livre, il tourne autour du spiritisme. Donc, il tourne autour de l'ésotérisme. Il tourne autour de la pensée magique. Bon, dans notre monde qui est très très cartésien, les sciences, elles ont recouvert la pensée magique. Alors, est-ce qu'on sait encore rêver sans pensée magique ?
Alors, moi j'ai fait une approche vraiment cartésienne du spiritisme. C'est ça en fait que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que mon personnage, en fait, c'est une apprentie magicienne qui se fait recruter par une agence de détectives privés. Et cette agence de détectives privés, s'ils recrutent cette magicienne, c'est parce que justement, ils se disent qu'elle va pouvoir voir au travers du tour des Sir Fox. Elle va pouvoir voir comment ce n'est qu'une grande supercherie et qu'en fait, ce ne sont que des charlatans. Et en fait, elle, au fur et à mesure qu'elle avance, elle commence à voir justement la vraie magie qu'il y a derrière les Sir Fox et peut-être à se dire que finalement, ce n'est pas qu'un grand tourbidon, quoi.
Alors, vous savez quoi ? On fait une pause très très courte et comme j'ai mille questions à vous poser, on se retrouve dans un instant en compagnie cet après-midi de mes invités Bernard Werber et son fils Jonathan Werber. Voilà, à tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Je reçois deux écrivains cet après-midi, le père et le fils. Le père, Bernard Werber, publie chez Albin Michel La planète des chats qui clôt sa trilogie sur les chats. Et le fils, Jonathan Werber, publie son premier roman chez Plon, Là où les esprits ne dorment jamais. Alors Bernard Werber, on évoquait à l'instant la pensée magique. L'héroïne de votre trilogie est une chatte prénommée Bastet, comme la déesse égyptienne, qui va parvenir presque malgré elle à sauver l'humanité de l'invasion des rats en communiquant avec les humains. Vous aimez bien, en écrivant ce genre de roman, prendre la place d'intercesseur entre les humains et les esprits, les humains et les animaux. Finalement, vous êtes un peu notre chaman blanc.
Ah, j'adore cette expression. Merci. Je crois que la fonction d'un écrivain, c'est de mettre son esprit dans quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, dans celui d'un animal, dans celui d'un esprit, dans celui d'un ange, dans celui d'un extraterrestre. C'est le grand plaisir de se projeter sur les autres. Donc là, c'est ce qui m'a amusé, en effet, comme vous l'avez dit, c'est me projeter dans l'esprit d'une chatte et d'imaginer comment cette chatte pourrait essayer de sauver l'humanité, parce que tout simplement, elle s'en sent capable.
Elles s'en sont capables, mais enfin tout de même, hein, vos chats, dans cette trilogie, vos chats, tels Bastet, donc l'héroïne, ou Pythagore, ont besoin d'un troisième œil, c'est-à-dire d'une prise USB implantée dans leur front pour se connecter à Internet et communiquer avec les humains et leurs ordinateurs. Bon, on aimerait tellement que, sur le plan cognitif, les animaux nous soient supérieurs. Ben, ils n'ont pas encore envoyé de sonde sur Mars. En tout cas, vous savez que Elon Musk a présenté l'année dernière un prototype d'interface directement branché sur le cerveau cerveau d'un singe et un port USB implanté sur le crâne d'un rat avec 1500 électrodes disposées sur son cerveau. Il y a eu des expériences faites en laboratoire et il paraît que ça fonctionne. Quand vous écrivez, Bernard Werber, vous êtes juste dans l'anticipation finalement, vous n'êtes pas dans la science-fiction parce que tout ça, c'est aux portes de notre futur immédiat.
Oui, exactement. C'est-à-dire que l'histoire accélère. Tout ce qui était considéré comme la science-fiction il y a encore 40 ans, on y est. Donc, j'ai essayé d'imaginer ce qu'on va avoir dans les années à venir. Et certains de mes romans, par exemple, je pense à L'Ultime Secret, je racontais justement des expériences sur le cerveau qui se pratiquent actuellement. Donc, les gens qui vont découvrir L'Ultime Secret maintenant, ils vont se dire, mais oui, mais on le sait, ça existe
enfin,
déjà.
Oui, ça sert. Mais seulement, c'est presque du reportage.
Voilà,
oui.
Mais à l'époque, ça n'existait pas et c'était la prospective, c'était il y a plus de 10 ans. Et j'essaie en effet de sentir venir les choses et de les mettre en scène pour que les gens comprennent l'intérêt. Donc mettre une prise USB dans le front d'un chat, ça présente un intérêt, c'est de donner accès à ce chat à la connaissance des hommes, voilà. Et donc lui offrir une culture, ce qui leur manque le plus. La plupart des animaux ne savent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas leurs ancêtres, ils ne connaissent pas leur propre histoire, l'histoire de leurs parents.
Oui, le passé n'existe pas pour eux, puisqu'ils vivent dans le présent.
Et
pas de projection, ni en avant ni en arrière.
Ils vivent dans le présent. Alors nous, on vit peut-être un peu trop et dans le passé et dans le futur, ce qui nous rend par moments, qui nous crée des problèmes, qui nous stresse. Mais les animaux n'ont pas le choix. Je ne sais pas si vous avez un chat. Vous avez déjà eu
un chat ? Mais j'ai un chat.
Vous avez vu votre chat, il est dans le plaisir permanent. C'est-à-dire, il a faim, il mange, il veut ouvrir une porte, il va miauler jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Et il est dans « je veux que le monde soit en permanence harmonisé à mon plaisir ».
Ouais.
Ce qui est un concept intéressant en soi. Mais par contre, ça ne lui donne pas la perspective que nous avons, nous, du passé et du futur. Et du coup, les chats ne peuvent pas, a priori, écrire de livres de science-fiction.
Alors, j'en reviens à votre sens de l'anticipation. À vous, Bernard Werber. Par exemple, dans le premier roman de la trilogie « Demain les chats », paru en 2018, vous mettiez en scène une humanité mise en péril par une pandémie contre laquelle aucun vaccin n'était trouvé. Bon, vous surfez donc très très souvent sur des timings qui tricotent demain et le futur. Mais je voudrais savoir comment la période actuelle, vous la vivez, votre imaginaire d'écrivain n'écarte pas une guerre bactériologique ?
Alors, comment je vis la crise du Covid ?
Oui.
Je pense que c'est une fonction pause dans la croissance de l'humanité, la croissance économique, la croissance démographique, cette invasion qu'a notre espèce sur sa planète hôte. Et c'est tout d'un coup, on s'arrête et on est obligé de réfléchir parce qu'on n'a pas le choix. Donc ça me semble un moment nécessaire, comme un instant de tentative de réflexion sur notre futur, et on est obligé de le faire, parce que sinon on était comme un troupeau aveugle qui avance, en se disant consommons, 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 faisons des enfants, profitons de tous les plaisirs, et il n'y avait pas de réflexion derrière. Et ça fait partie des cycles, des cycles d'évolution de l'humanité.
Aujourd'hui, le seul prédateur de l'homme, c'est l'homme ?
Oui, et les virus, comme on le voit. Mais il y a un moment, c'est vrai, c'était...
Oui, mais les virus... Alors, bon, on pourrait parler de leur culture
sujet.
Ou examen en laboratoire, manipulation. Derrière, il y a encore... Parfois, il y a l'homme.
Oui, ça se peut d'ailleurs que ce virus ait été fabriqué par l'homme. On le saura lorsque les Chinois autoriseront une enquête.
Oui, puisque pour l'instant, c'est
centre.
Verrouillé. On n'a pas le droit d'entrer dans les laboratoires de Wuhan. Hein, et tout a disparu.
Le laboratoire a disparu et tous ceux qui travaillaient dedans ont disparu. Donc, on pourra difficilement savoir. Mais en effet, ça se peut aussi que ce soit l'homme qui ait causé ça. Je crois qu'en effet, on est devenu tellement puissant. On est devenu tellement hégémonique qu'il y a un moment où... forcément, on va se faire du mal, et c'est ce qu'on est en train de commencer à voir au ralenti. Maintenant, il est temps de s'arrêter de réfléchir.
Bon, alors, avec Jonathan, on ne va pas se projeter vers l'avenir, on va revenir, mais c'est absolument passionnant, sur le passé, puisque, donc, paraît chez Plomb, votre premier roman, foisonnant, haletant, là où les esprits ne dorment jamais. En fait, on remonte carrément au 19e siècle, en 1888 à New York, où une jeune prestidigitatrice, on l'a dit tout à l'heure, va devoir enquêter sur le phénomène et le business, hein, parce que ça a été un business faramineux, des sœurs Fox, ces trois filles de pasteurs qui ont lancé le mouvement du spiritisme, la communication avec les défunts, auxquelles ont adhéré au milieu de ce siècle 8 millions de personnes. C'était un véritable marché. Et puis, de grands esprits comme ceux de Victor Hugo, Alexandre Dumas, George Sand, le créateur de Sherlock Holmes, Conan Doyle, s'y adonnait. Votre roman, il mélange donc fiction et réalité, car En fait, l'agence de détective, je suis allée chercher sur Internet, Jonathan, mais l'agence de détective privée Pinkerton, elle a existé et elle aurait très très bien pu enquêter sur le phénomène et les arnaques du spiritisme. Elle a été créée en 1850, c'est incroyable.
Oui. En fait, il y a eu des enquêtes sur le spiritisme, mais c'était pas sur le spiritisme, c'était sur des spirites.
Ouais.
Parce que, en fait, faut s'imaginer qu'il y a un petit côté psychologue dans les spirites de l'époque. Et donc, du coup, il y avait des gens qui dévoilaient des secrets et après, les spirites les faisaient chanter.
Là où il y a arnaque, il y a forcément psychologie.
Exactement. Mais donc, en fait, ils enquêtaient plutôt sur des choses comme ça, sur des affaires où il y avait des gens qui se faisaient chanter, etc. Ils n'ont pas enquêté sur le spiritisme en soi, sur un truc aussi gros que vouloir arrêter le mouvement. Mais c'est, enfin, moi, quand j'ai vu les enquêtes, quand j'ai appris à découvrir Pinkerton, quand j'ai appris à découvrir les Sœurs Fox, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de mettre les deux, puis il fallait les mettre. Je me suis dit, si on fait quelque chose comme ça, il faut les mettre sur un gros coup, les Pinkerton. Les mettre sur le plus gros coup du siècle, la plus grande arnaque du siècle.
Alors, on fait une pause et on retrouve tout de suite Bernard et Jonathan Ferber.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alors, Bernard Ferber, Jonathan Ferber, selon vous, qu'est-ce que les futurs écrivains ont en commun dans leur enfance? Il faut un terreau particulier pour devenir un conteur d'histoire?
Ben, peut-être déjà, il faut avoir entendu des histoires quand on était enfant. Moi, mon père...
Vous en avez beaucoup raconté à votre fils et vous en avez beaucoup entendu
beaucoup
de la part de votre père.
De la part de mon père et j'en ai raconté, j'espère, beaucoup à mon fils. Je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, mon père, je me rappelle, m'a donné le goût des mythologies grecques. Et à travers les mythologies grecques, j'ai compris les mécanismes de dramaturgie et de tragédie. Et après, je crois que derrière chacun de mes romans, il y a un personnage des mythologies grecques qui est apparu presque inconsciemment.
Alors Bernard Ferber, en fait, vous êtes un scientifique contrarié. Il paraît qu'un prof de maths qui ne vous aimait pas vous a bloqué, en fait. Il a bloqué votre orientation vers la filière scientifique, donc quand vous étiez ado.
Oui.
Alors, vous avez pris la tangente. En première et en terminale, vous avez créé un journal au lycée truffé d'articles scientifiques. Un journal qui était très, très innovant, car on pouvait même lire les nouvelles qui étaient publiées en respirant des parfums sur des languettes imprégnées. Pour ça, vous aviez fait un stage chez un parfumeur toulousain. Oui. Donc, vous aviez déjà 1000 vies, adolescent.
Surtout, je m'ennuyais.
Je sais pas
comment s'est passée votre scolarité, mais moi, le système scolaire qui me demandait de mémoriser les noms des fleuves en Russie, j'y arrivais pas. Par contre, dès qu'on me proposait de faire autre chose à côté, ça m'amusait. Puis au bout d'un moment, vu que l'école me proposait pas beaucoup d'autres choses à côté, j'ai créé un club journal. Et j'ai fait des bandes dessinées qui se disaient avec des parfums. Et donc, j'ai pris des cours de parfums et des cours d'imprimerie. Tout ça m'a été très utile après pour écrire des romans.
Incroyable. Alors ensuite, vous avez fait des études de droit, vous avez fait criminologie, puis des études de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Paris, dont vous êtes sorti avec une bourse pour un reportage en Côte d'Ivoire. Et alors là, tout se met en place. Un reportage à la poursuite de ces insectes qui vous fascinent depuis l'adolescence, les fourmis magnans. Mais alors, il vous a fallu quand même 10 ans avant de réussir à publier ce qui est devenu un best-seller planétaire. 20 millions d'exemplaires vendus, ça fait rêver Jonathan, votre fils. Hein.
Ça a été refusé
pendant 10 années consécutives.
Non, ce qui est extraordinaire, c'est pas que ça a été refusé, c'est que ça a été accepté. Parce que je crois que même l'éditeur qui a songé à l'accepter, quand il a annoncé on va publier un livre sur les fourmis, ça a fait rigoler au sein de l'entreprise elle-même, d'Albin Michel. C'est-à-dire que tout le monde se disait, attends, quel intérêt de faire un roman sur les fourmis. Donc ma grande chance, c'est qu'il y a une personne, c'est Richard Ducousset, mon éditeur, qui s'est dit « Moi, je crois que ça peut toucher un grand public. Ça, il suffit qu'une personne croit en vous et ça suffit par moment à faire une carrière. » Donc là, j'ai eu la chance de croiser cet éditeur et depuis, je suis toujours chez Albin Michel depuis 30 ans.
Ben oui, puisque voilà, La Planète des Chats paraît également chez Albin Michel. Mais en fait, ça n'avait rien à voir avec un reportage. C'est de l'humanité dont vous nous parliez dans ce livre, par le prisme des fourmis.
Je crois qu'il y a une phrase de Gödel, qui est un mathématicien, puisqu'on parlait de mathématiques, qui dit « Pour comprendre un système, il faut s'en sortir. » Et quand je parlais des fourmis, en fait, je parlais d'une espèce qui étant sociale, créant des villes, s'est déjà retrouvée dans le même problème que nous, qui créons des villes. Et donc, je disais que les fourmis, vu qu'elles sont sur Terre depuis 120 millions d'années, et que nous sommes sur Terre tout au plus que depuis 3 millions d'années, elles sont en train de nous montrer ce qui va nous arriver. Et je suis persuadé que les fourmis sont un moyen de savoir le futur de l'humanité dans 100 millions d'années.
Alors, Jonathan Werber, effectivement, on comprend en regardant la biographie de votre père qu'il n'appartient à aucune chapelle. Hein. Il s'est essayé à mille choses. C'est un peu votre cas, puisque vous avez commencé des études d'ingénieur, que vous avez interrompu donc, pour intégrer l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, l'ESRA. On vous attendait a priori plutôt sur des plateaux de cinéma, mais aujourd'hui, vous êtes exposé en librairie. Il vous a fallu quand même combien de temps pour comprendre ou admettre, je ne sais pas, que vous êtes un écrivain? Parce que quand vous avez décidé de faire l'ESRA, vous imaginiez plutôt sur des plateaux de cinéma.
Mais moi, je me rappelle que ce qui m'avait attiré vers le cinéma, c'était, je m'étais dit, c'est des gens qui arrivent à m'émouvoir, et qui arrivent à émouvoir énormément de monde, quand c'est bien fait évidemment, comme rarement quelque chose l'a fait. Et c'était ça qui m'avait attiré vers là, et j'étais genre, en tout cas, j'adore la théorie sur plein de choses, et du coup j'ai étudié énormément la théorie de la magie, alors qu'avec mes mains, je suis complètement maladroit. Mais j'ai passé des heures à lire les ouvrages de Houdin, les ouvrages de Houdini, et c'est vrai que ça m'avait passionné sur... c'est un peu l'investissement dans la discipline. Et ouais. Je trouve que dans la vie, il faut se trouver une sorte de... Et j'appelle ça une discipline, mais quelque chose dans lequel on a l'impression qu'on excelle et qu'on peut apporter quelque chose de plus. Et c'est ça qui m'avait poussé vers... Le truc d'écrivain, parce que j'avais l'impression, en tout cas quand j'étais à l'ESRA...
Et dans un premier temps, écrire des scénarios pour le cinéma.
L'écrire des scénarios, ça s'est fait un peu par hasard. J'avais commencé sur un court-métrage en première année, et on l'avait écrit, on avait une des pires équipes. On avait la pire équipe, le pire budget. C'est-à-dire qu'en gros, on était quatre amis, et une équipe, c'était environ 10 personnes. Et on était quatre amis, et notre maître de groupe, il était convaincu qu'on allait faire un court-métrage pourri. Et finalement, j'avais travaillé énormément sur le scénario avec mon co-réalisateur de l'époque. Et on avait réussi à faire quelque chose de correct. On était arrivé premier de promotion, alors qu'on avait... les chances étaient contre nous. À l'époque, ce que j'ai écrit, même maintenant, quand je regarde ce court-métrage, je le trouve absolument nul. Hein. Je vous le dis, ne le regardez pas. Il n'est pas très très bon. Mais il y avait un début. Et c'est en pratiquant, et c'est en passant énormément de temps dessus, que j'ai réussi à m'améliorer, à faire d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu 3 ans aussi pour écrire Là où les esprits ne dorment jamais. C'était vraiment, je commençais à comprendre le système de l'horlogerie. J'avais écrit une première version du livre qui faisait 350 pages, qui était vraiment pas bonne du tout. Et du coup, je l'ai complètement envoyé à la poubelle, au grand dame de mon éditeur, et je lui ai dit, désolé, cette version-là,
ça ne va pas être la bonne. Vous avez décidé de l'envoyer à la poubelle.
Oui.
Et alors que l'éditeur était prêt à la publier.
Oui.
Incroyable.
Bah, oui, mais en même temps, je me dis, le lecteur m'accorde son temps, m'accorde son argent, il faut le respecter, ça.
Vous savez que votre père est absolument ravi de vous entendre parler ainsi, parce qu'il se dit que sa progéniture a vraiment bien repris le flambeau.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
En France, nous avons Alexandre Dumas, père et fils. Sans doute allons-nous avoir les Werber, père et fils. Bernard Werber fait paraître chez Albin Michel La planète des chats. Son fils, Jonathan Werber, fait paraître chez Plon Là où les esprits ne dorment jamais. Et tous deux sont cet après-midi mes invités. Alors, Bernard Werber, voilà, à l'attention de tous les écrivains en herbe, on disait tout à l'heure qu'il vous a fallu quand même près d'une dizaine d'années pour faire publier donc votre tout premier livre, Les Fourmis, qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires tout autour de la planète. Donc on est vraiment bien au-delà du succès colossal. J'aimerais savoir comment on écrit le deuxième livre quand le premier s'est vendu à 20 millions d'exemplaires.
Ben on oublie le premier, on redémarre à zéro. De toute façon, chaque fois que j'écris un roman, je reapprends le métier et je redémarre à zéro. Mon seul souci, c'est de faire original, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait avant et de faire quelque chose que je n'ai pas déjà fait moi-même avant.
Et pourtant, vous faites souvent des cycles,
voilà.
Des trilogies, vous reprenez le fil.
Oui, mais parce que au moment où j'écris le livre, je ne sais pas quel... quantité de pages il va me demander. Et sur le cas, par exemple, de Demain les chats, au moment où je l'ai écrit, ça devait être un unitaire. Mais quand c'était fini, j'avais l'impression que mes personnages avaient encore des choses à dire et des aventures à vivre. Donc, quelque part, c'est comme si le livre était vivant et vous indiquait, comme une plante, quelle taille il veut avoir, est-ce qu'il veut être en trilogie ou en unitaire.
Alors en France, on chérit l'autofiction et l'introspection qui donnent des autobiographies romancées. Hein. La plupart des auteurs français contemporains s'y adonnent, n'est-ce pas? Et vous dites, Bernard Werber, que en fait, pour vous, ce n'est qu'une thérapie déguisée pour des gens qui ont une plume, certes, du style, mais aucune imagination. Pour vous, toutes ces autobiographies, finalement, ne sont que paresse?
j'ai mis de l'eau dans mon vin depuis. C'est-à-dire, je considère qu'il y a un public pour les
diplomates.
Non, il y a un public pour les autobiographies que je respecte. Maintenant, il est plus facile de raconter sa vie que d'inventer une vie qui n'existe pas. Donc, le vrai travail d'horloger consiste à fabriquer une montre à partir de matériaux neufs. Maintenant, les événements qui arrivent dans la vie, c'est pas vous qui avez décidé, c'est vos parents, c'est des gens extérieurs, c'est le bon Dieu. En tout cas, c'est pas vous qui avez décidé de naître à tel endroit, d'avoir tel nom et d'avoir tel parent. Donc, c'est quelque chose de subi, une vie. Ce qui me semble intéressant, c'est de créer un personnage qui n'existe pas, d'inventer un décor qui n'existe pas, et à l'intérieur, de créer des situations. C'est en fait le pouvoir démiurge, c'est-à-dire le pouvoir d'être le montreur de marionnettes, mais c'est vous qui fabriquez la marionnette, c'est vous qui fabriquez le décor. Et ça, c'est le vrai art du romancier, c'est partir de rien et créer.
Mais alors, pourquoi Bernard Werber ? Pourquoi au pays de Jules Verne, la science-fiction et les romans d'anticipation sont-ils si décriés ? On dirait que ce n'est pas une littérature noble.
Parce qu'il y a eu à un moment un petit groupe de mafieux qui ont décidé que les livres devaient être chiants et qu'ils sont encore au pouvoir.
Ça y est, Bernard Werber se fâche.
Vous l'avez lancé aussi.
Non, mais voilà, je pense qu'à un moment, il y a un groupe de gens qui ont décidé que les livres ne devaient pas avoir d'intrigue et ne devaient pas avoir d'imaginaire et qu'au bout d'un moment, on ne sait pas comment, ça s'est installé comme une règle. Et quelque part, tout va très bien parce que du coup, je suis visible. Il y a tellement peu de gens qui font des livres imaginaires en France qu'ils sont visibles.
Bon, votre père, il fait parler les fourmis, les anges, les dieux, les chats, bien sûr, en se projetant dans ce que pourrait être le monde dans 50 ans. Vous, vous définissez comment votre terrain de jeu ? Quelles sont vos obsessions ?
Moi, je fais parler les esprits. Non. j'ai pas vraiment de terrain de jeu. Comme je dis, en général, c'est vrai que c'est là où on voit. En fait, moi, c'est souvent des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc, je vois, il y a des thématiques déjà proches, parce que j'ai déjà un petit peu avancé sur le projet du prochain. Il y a des thématiques qui me tiennent à cœur, qu'on voit dans Là où les esprits ne dorment jamais, qui reviennent dans le prochain. Mais c'est surtout trouver une manière intéressante, originale, pas vu d'exploiter le concept que j'ai. Et je pense que c'est ça qui compte.
Alors, en ce moment, vous travaillez sur le prochain livre, mais celui qui vient de paraître donc, chez Plon nous entraîne dans l'univers du spiritisme qui, je l'ai dit tout à l'heure, au 19e siècle, vraiment a ébranlé, je pourrais presque dire contaminé une grande partie de la société américaine sous l'emprise des sœurs Fox, et puis ensuite l'Europe, puisque Victor Hugo, par exemple, en exil à Jersey et Guernesey, s'adonnait au spiritisme pour tenter d'entrer en contact avec Léopoldine, sa fille noyée quelques années plus tôt. Bon, vous avez beaucoup enquêté pour écrire ce roman, Jonathan, qui relève du thriller, mais est-ce que vous êtes prêté à des séances de spiritisme ?
Alors, non. Non, je pense que quand on écrit une histoire, et c'est une des premières choses que j'ai appris quand je m'y suis mis à m'y mettre de manière, j'ai envie de dire professionnelle, où je travaillais, c'est l'histoire, ça doit être quelque chose de personnel, et ça doit participer à transmettre une vision personnelle du monde. Et pour moi, le spiritisme, ça ne... Je spoil un peu mon propre livre, mais ça ne doit pas forcément passer par une médium. C'est-à-dire que pour moi, n'importe qui doit être en mesure de pouvoir pratiquer le spiritisme à sa façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer le spiritisme. Et la façon dont j'en parle, c'est ça, c'est pousser les gens à trouver leur spiritisme personnel. Et pour moi, c'est ça le plus important.
Alors, vous, Bernard Werber, c'est l'auto-hypnose régressive que vous avez pratiquée pour découvrir vos vies antérieures. Il faut nous raconter, parce que c'est quand même extraordinaire. L'auto-hypnose régressive.
L'hypnose régressive, parce que je le fais en spectacle aux gens. Alors, moi, je n'ai pas de conviction, ni de foi, ni de croyance. Aussi sûrement que ça puisse paraître, j'ai une formation de journaliste scientifique et je reste cartésien. Mais je me suis aperçu qu'on pouvait, en fermant les yeux et en visualisant un couloir avec des portes, ouvrir ces portes et se retrouver dans des... En tout cas, avoir l'impression de se retrouver dans des vies antérieures.
Il n'y a pas de confusion possible entre un amalgame de rêves et de souvenirs et l'hypnose.
Alors, ça se peut que ça soit juste l'imagination. D'ailleurs, chaque fois que je fais le spectacle, j'en dis « Et si c'était que mon imagination ?» L'hypnose, c'est juste une manière de détendre les gens pour qu'ils soient prêts à rêver ou à méditer de la manière que je vais leur proposer. Et alors, ce que je vais leur proposer, c'est de visualiser un couloir avec des portes numérotées de leur vie antérieure. Le seul élément troublant dans cette expérience, c'est que parfois, les gens arrivent à retrouver leur nom et leur prénom et qu'on peut s'apercevoir que la personne a réellement existé. Et c'est les détails, des détails que la personne ne pouvait pas connaître sur des périodes anciennes, parce qu'on n'a que les récits historiques, mais on connaît très mal la vie quotidienne des gens. Et là, tout d'un coup, on voit qu'ils savent à tel endroit, il s'est passé tel détail qui est vraiment inattendu et qu'on peut vérifier par la suite. Mais ça a dû arriver que 5-6 fois, le fait de trouver le nom, le prénom, le lieu et qu'on puisse vérifier que c'était le bon endroit. Donc sur des milliers de personnes. Maintenant, ça marche sur à peu près la moitié des gens. Ça marche pas sur tout le monde. La moitié des gens arrivent à avoir un début de récit. Ça sous-entend en effet que nous avons plusieurs vies et que après notre mort, nous pouvons renaître et que c'est l'hypothèse de la réincarnation telle qu'elle est présentée notamment dans le bouddhisme, mais qui m'a l'air quelque chose qui existe aussi et dans le christianisme et dans le judaïsme et dans la plupart des religions anciennes, tout simplement parce que on a l'impression que notre âme est immortelle et c'est nos corps qui sont mortels.
Il n'empêche, même si tout ça semble surfer à la limite de l'ésotérisme, hein, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, mais il n'empêche que le ministère de l'Éducation nationale vous a choisi, Bernard Werber, pour être le parrain en France de la Fête de la Science, fête qui s'est déroulée en ligne cette année du 6 au 16 novembre. Donc ça veut dire que les scientifiques et l'Éducation nationale considère que vous êtes...
Quand vous associez les deux éléments, ça peut paraître en effet bizarre. Mais moi, j'ai une formation en journalisme scientifique. J'ai évidemment passé...
Vous avez écrit d'ailleurs de nombreux articles pour le Nouvel Obs à une époque de votre vie.
J'ai passé 10 ans à pratiquer ce métier, ce qui m'a permis d'aller voir tous les laboratoires, de connaître bien la science. Je ne suis pas moi-même scientifique, mais par contre, pour chaque article, j'ai dû faire évidemment une documentation. Mais en effet, ce qui me semble intéressant, c'est que je ne me sens pas limité par la connaissance scientifique d'une époque. Je pense que dans les années à venir, on va découvrir des tas de choses qui vont faire que les certitudes d'aujourd'hui seront remises en question par les découvertes de demain. Et si le ministère de la Recherche m'a proposé en effet d'être le parrain de la Journée de la Science, c'est parce qu'en effet, il pense que maintenant, il est temps d'ouvrir les voies et surtout de montrer que pour les jeunes, la science n'est pas quelque chose d'ennuyeux, mais que c'est au contraire quelque chose de dynamique, que c'est quelque chose dans lequel le scientifique se retrouve en fait chercheur et donc aventurier, comme mes personnages de roman.
Voilà, aventurier des sciences. Allez, on fait une pause, on retrouve tout de suite Bernard Werber et Jonathan Werber.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Chez les Werber, on a le goût du romanesque de père en fils. Bernard Werber fait paraître chez Albin Michel La planète des chats et son fils Jonathan Werber fait paraître chez Plon Là où les esprits ne dorment jamais. Alors, cher Jonathan, vous qui avez intégré l'ESRA, donc une école qui forme au métier du cinéma et de la télévision, vous aviez 13 ans quand votre père a réalisé son film « Nos amis les terriens » produit par Claude Lelouch. J'imagine que cette année-là, l'année de vos 13 ans, vous avez dû passer quand même pas mal de temps sur les plateaux de cinéma, non? Vous avez assisté au tournage ou pas?
J'y joue dedans.
Carrément!
J'ai un rôle de figurant, mais ma scène a été coupée parce que j'étais très mauvais.
Non, il en reste un tout petit bout. C'était au générique.
Est-ce que vous étiez parmi les techniciens? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à observer le tournage ou pas?
Alors, pour ceux qui n'ont jamais été sur un plateau de télé ou un plateau de cinéma, c'est très chiant. Hein. je vous le dis, hein, en fait, on passe énormément de temps, mais tout le monde le sait, mais on passe énormément de temps à attendre, et puis on refait 40 fois la scène, où juste il arrive et il met des cornflakes dans son bol, voilà, et on le fait 40 fois, histoire de l'avoir bien, parce qu'il y a une mouche dans le champ, ou je sais pas quoi.
T'exagères, pas 40.
Non, pas 40, 4... parce que t'avais pas le budget, mais...
4-5 fois.
Non, mais vraiment, mais un tournage, c'est généralement très lent, et à 13 ans, j'étais un garçon impatient, donc je ne comprenais pas le tournage, et tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit 40 personnes qui sont chez nous parce qu'il a tourné dans notre appartement, mais dans lequel je vivais à l'époque, et on est réveillé à 7h du matin alors qu'on doit se réveiller à 8h, et il y a 40 personnes qui arrivent chez nous et qui commencent à nous empêcher de prendre notre petit-déj. Voilà ce qu'on voit à 13 ans. Je ne comprenais pas, j'en ai pas énormément de souvenirs.
Je crois qu'il y avait moins de 13 ans.
Hein. On a compris, c'est quand même extraordinaire qu'après vous ayez fait une école de cinéma puisque vous en gardez un si mauvais souvenir. Alors justement, puisque vous avez fait l'ESRA à l'école de cinéma, vous considérez Jonathan Werber, en fait vous considérez comme un auteur qui quand même plus tard pourrait faire des films et adapter au cinéma ses romans, ou bien l'écriture pour vous définitivement c'est l'aboutissement ultime, ça n'est pas un moyen?
C'est une question que je me pose beaucoup, surtout maintenant que j'ai fini.
Je
m'étais toujours dit, je vais finir là où les esprits ne dorment jamais. Ensuite, je voulais me mettre sur un scénario. Ce qui est assez marrant parce que j'ai commencé à travailler sur le scénario et je me suis dit, mais si je le passais pas en livre? Ce qui est drôle parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur là où les esprits ne dorment jamais. C'était un scénario et ensuite c'est passé en roman. Mais il y a quelque chose avec le roman, c'est que déjà j'ai de la chance d'avoir un éditeur qui aime ce que je fais. Il avait dit, l'histoire, j'adore, c'est un truc que j'avais pas lu depuis très longtemps. Et sache que si tu veux refaire un livre, je suis là. Donc là, maintenant que le livre est sorti, il me l'a encore redit, il m'a dit, bah écoute, dès le moment où tu veux refaire un livre, je suis là.
Mais ce livre a tout vraiment pour devenir un film. Hein.
Oui, le livre est... Mais après, c'est simplement la manière dont je pense moi. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai eu la chance de faire scénariste et réalisateur beaucoup à l'ESRA, au bout d'un moment, on comprend qu'une action écrite, c'est un mouvement de caméra. Et c'est-à-dire qu'une action, ça doit être montré d'une telle manière. Et en fait, c'est quand on est écrivain, on déplace la caméra, on dit ce qu'on regarde.
Bien sûr.
Et après, moi, je sais, on me l'a dit, pour moi, c'est la façon de faire, mais on m'a dit, ah, vous êtes un écrivain très visuel, et j'essaie toujours de faire ça parce que, pour moi, il y a cette idée qu'il faut effacer l'idée que la personne est en train même de lire un livre, et il faut qu'elle soit tellement plongée dans l'histoire qu'elle ne pense plus à elle-même et qu'elle soit à fond dedans. Et pour moi, ça se fait à travers une mise en scène, à travers une mise en scène, à travers un découpage, à travers... Et c'est pour ça que le travail que j'ai fait à l'école de cinéma, il est vraiment primordial pour moi, et il est essentiel à l'écriture de roman. Mais ce que j'aime absolument dans l'écriture de roman, c'est qu'au moins je sais que ce que j'écris, ce sera ce que vous avez. C'est-à-dire que c'est aussi ça le problème, c'est qu'avec les financements, et le cinéma, et les producteurs, et des choses comme ça, il y a 20 000 manières qu'il y ait quelqu'un qui lise et qui ne comprenne pas ce que vous voulez faire, et qui veuille le changer, et qui ait le pouvoir de le changer, alors que c'est absolument essentiel pour nous.
Alors, Bernard Werber, nul n'est prophète en son pays. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qui vous concerne, hein, puisque vous vendez énormément de livres en France, mais en Russie, au Japon, et puis surtout en Corée du Sud, il y a autour de vous une starisation, je pourrais presque dire une Werbermania absolument phénoménale. Vous allez régulièrement dans ces pays? Hors oui. Période Covid, bien sûr.
Ah, oui, mais j'adore. De toute façon, vous savez, je crois que dans la vie, de manière générale, on a ce qu'on veut. Il faut juste être clair sur ce qu'on veut. Donc moi, j'ai voulu être écrivain, et j'ai voulu écrire pour l'espace et pour le temps. Donc j'ai ce que j'ai voulu.
Mais Bernard Werber, que dites-vous qui n'est pas dans vos livres quand vous donnez des conférences en Russie, au Japon, en Corée? Parce que vous allez régulièrement donner justement des conférences, vous retrouvez devant des publics si divers, si variés.
Je leur dis qu'il faut faire la révolution.
en Russie, ça marche bien.
Ouais. Non, je leur dis, mais qu'il faut faire une révolution pacifique et plutôt que s'attaquer au système, le rendre obsolète, montrer qu'il est obsolète. Quel que soit le pays, il y a une nouvelle génération qui se retrouve confrontée au règne des vieux cons. C'est bon pour tous les pays, y compris là-bas. Et quand je leur parle, en effet, ça leur parle, surtout en Russie d'ailleurs. En Russie, j'arrive à avoir 5 à 10 000 personnes qui viennent dans mes conférences et je leur dis ça. Je leur dis, il y a un système ancien qui bloque et c'est à nous d'arriver à trouver un moyen de le débloquer.
Et Poutine ne vous a jamais envoyé ses sbires ?
Non, parce que je suis un romancier et puis je ne fais pas de politique. Je dis juste, c'est le sens, y compris en littérature. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des mêmes mafias littéraires et en Corée et en Japon et en Russie, puisque vous citez ces trois pays, avec des vieux cons qui empêchent la nouvelle génération beaucoup plus créative d'émerger. Donc il n'y a pas qu'en France. Hein. C'est une sorte de tradition. D'ailleurs, Rabelais appelait ça les Sorbonnards. Parce que déjà à son époque, il y avait un groupe de pisse-vinaigre qui avait bloqué tout le système et qui empêchait les choses rigolotes comme son Gargantua ou son Pantagruel. Ouais. C'est pour ça que j'adore Rabelais, c'était un vrai rebelle. La Fontaine, c'était aussi un rebelle. Boris Vian, tous ces auteurs, c'est des gens qui ont essayé de changer le système et qui sont donc tapés contre les académies locales.
Alors, le La Fontaine 2.0, ça vous convient, n'est-ce pas, comme désignation?
Ça me convient très bien. C'était le seul courageux qui a osé défendre Fouquet contre Louis XIV. La Fontaine, c'est un mec qui avait vraiment des couilles. Et on n'a retenu que ses fables, alors que le type est vraiment passionnant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Bernard Werber, soyons curieux de la vie des autres. Bon, c'est un peu votre mantra. Vous auriez aimé exercer le métier d'intervieweur? Et peut-être d'ailleurs, est-ce votre manie de poser des questions aux gens comme ça dans la vie en permanence, non?
Alors, quand j'étais journaliste scientifique, j'interviewais les scientifiques. Mais alors, ma manière d'interviewer était la suivante. C'est que je disais, est-ce que vous pouvez me parler de votre sujet? Et puis là, je ne faisais qu'écouter.
Et... Facile!
C'est pour ça que j'ai abandonné le métier. Mais il y a un moment, j'ai peur qu'en relançant, je le bloque. Et j'ai toujours peur de les couper. Et je me rappelle notamment, j'avais interviewé Henri Laborie, que j'admirais énormément, qui a inventé les tranquillisants et qui expliquait que dans la vie, on n'a que trois choix, combattre, inhiber ou fuir. Et je me rappelle, je suis arrivé, j'ai dit « Bon, ben, très heureux d'être là, vous pouvez m'expliquer votre démarche. » Et il a parlé pendant une heure, c'était passionnant. Et je ne l'ai pratiquement pas coupé. Juste à la fin, je lui ai dit « Faut que je vous dise que l'éloge de la fuite est le livre qui est posé sur ma table de chevet et que c'est ça qui oriente ma vie. » Et il m'a dit « Oh, c'est pas le meilleur de mes livres. Le meilleur de mes livres, c'est celui-ci. » Et là, j'ai compris, il ne faut jamais dire du mal de ses propres livres. Et il m'a donné un autre livre qui s'appelait La colombe assassinée. Et là, c'était pas terrible. Donc en fait, j'ai compris, il faut jamais dénigrer son propre travail. Mais en tout cas, ça a été un grand moment. Henri Laborie, pour moi, c'est un type qui a changé notre société. Si on vit tous sous tranquillisant, c'est grâce à Henri Laborie.
Bon, si on vit tous sous tranquillisant, je sais pas si c'est une chose formidable.
Mais en tout cas, tranquillisant.
Parlons de votre travail, Bernard Werber.
Mais j'ai interviewé.
Vous n'écrivez pas chez vous, non. Dans la solitude traditionnelle et religieuse de l'écrivain, vous aimez plutôt les lieux publics, comme ouais. Les cafés. L'attention, la concentration ne se disperse pas quand on écrit dans des lieux publics ?
Non seulement ça, mais des fois des gens viennent m'arrêter pour faire des dédicaces. Je m'arrête d'écrire, je fais la dédicace et je reprends, je me suis arrêté. En fait, je suis suffisamment en maîtrise de ma concentration pour pouvoir m'arrêter n'importe comment et reprendre aussitôt. Donc ça va très bien. C'est de 8h à midi et demi, c'est trompé dans les horaires. Il a dit 9h-13h, c'est 8h à midi et demi. Je vous expliquais pourquoi c'est midi et demi. Parce qu'après, ils commencent à dresser les tables et ils évacuent
d'accord.
Toutes les personnes qui consomment des cafés. Voilà.
Alors il paraît que votre mot préféré est le mot félicité, qui nous ramène justement aux chats, aux chats sur lesquels vous écrivez depuis 3 ans maintenant. Puisque, alors félicité, bon, la racine félis en latin signifie chat. Voilà. Mais pourquoi les chats peuplent-ils les maisons des écrivains ?
Parce qu'on voit qu'ils sont intelligents et qu'ils perçoivent le monde différemment de nous. D'ailleurs, j'ai conseillé à Jonathan d'avoir un chat. Là, il a actuellement Plume.
Le chat le plus gentil du monde.
Et il vit une grande histoire. J'avais vu la maison d'Hemingway où on voit les 60 chats qui ont 6 doigts qui sont là. Et je peux vous dire que si parmi nos auditeurs, il y en a qui ont envie d'être écrivain, une des techniques pour trouver l'inspiration consiste à avoir un chat près de vous. Tout simplement, vous le regardez et vous dites « Attends, il a l'air de percevoir des trucs que je ne perçois pas. » Et c'est aussi ça qui m'a poussé à écrire Demain les chats et la série qui termine par la planète des chats. C'est qu'il y a un moment, on se dit, on dirait des extraterrestres, on dirait des êtres qui ont une pensée parallèle à la nôtre. Et surtout, ils ont l'art d'être heureux. Il y a quelque chose de très subtil chez le chat qui inspire l'écrivain.
Qui inspire l'écrivain et qui intrigue l'humain et qui fait que, paraît-il d'ailleurs, depuis Jules César détestait les chats, Hitler détestait les chats, Napoléon ne supportait pas les chats, parce qu'en fait le chat n'obéit qu'à lui-même, aucun maître ne le soumet.
C'est un animal qu'on ne peut pas apprivoiser. D'ailleurs, longtemps, les chrétiens avaient l'interdiction de la part du pape d'avoir des chats qui étaient considérés comme des animaux sataniques ou maléfiques, tout simplement parce que non seulement on ne peut pas les apprivoiser, mais ils ont une sexualité qui est bruyante. Donc ça paraissait comme une forme de perversion, en tout cas au Moyen-Âge. Il y avait des faits dans lesquels les gens devaient tuer des chats à la Saint-Jean. Donc on n'en est sorti finalement que depuis peu de temps. Ça a dû s'arrêter vers 1600-1700.
Mais quelle horreur. Bon alors, sincèrement, hein, maintenant, et pas par convention ou langue de bois dans un intérêt marketing, parce qu'on est devant des micros, non, le plus honnêtement du monde, j'aimerais que chacun à votre tour, en quelques mots, vous nous confiez en fait ce qui vous a le plus surpris, réjoui, transporté dans le roman de l'autre. Alors d'abord, Jonathan Werber, à la lecture du nouveau roman de votre père, La planète des chats. Parce que c'est... Alors là, votre père retire ses lunettes, il se cache les yeux, il est inquiet.
Non.
Moi, ce qui m'a le plus impressionné, il y a un terme anglais qui s'appelle le world building, qui est l'idée de... En gros, c'est le monde dans lequel opère votre histoire. Et c'est comment il a rénové la société américaine post-apocalyptique qui m'a vraiment impressionné. C'était son bâtiment en fonction des étages, avec des cultures différentes. Ça m'a absolument transcendé.
Génial. Et maintenant, Bernard Werber, à la lecture du roman de Jonathan, Là où les esprits ne dorment jamais.
Il a des très bons cliffhangers, c'est-à-dire que les chapitres s'arrêtent à un moment où on a envie de savoir ce qui va arriver ensuite. Et ça, il maîtrise ça très bien. Donc du coup, il arrive à créer une addiction.
Bon, dites-moi, tous les deux, Bernard Werber, Jonathan Werber, vous n'avez pas la même maison d'édition. En revanche, vous avez le même nom d'auteur, Werber. Un pseudonyme aurait été une sorte de coquetterie, Jonathan. Vous avez gardé le nom de votre père.
Selon mon éditeur, ça en serait une, mais je pense que c'est une bonne idée parce que Tout auteur vise à être lu, et j'en fais partie, et je pense que l'argument Werber, enfin le nom Werber, c'est quelque chose qui dit que le livre que vous allez prendre dans les mains, c'est quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, qui va vous transporter ailleurs, qui va être une littérature particulière.
Vous entendez, Bernard ?
Qui va être une littérature particulière que j'essaie d'émuler et de m'approprier, mais j'ai essayé de rester dans cet esprit de « on divertit le lecteur », c'est « divertir et faire réfléchir ». Et voilà, après j'essaie de m'approprier en effet le nom, mais je pense que c'était pas une erreur, et je pense que ça permet en tout cas de me donner de la visibilité, ce que je n'aurais peut-être pas forcément eu si jamais j'avais eu un pseudonyme.
Eh bien, le premier roman du fils est aussi foisonnant que celui du père. Je rappelle que Bernard Werber fait paraître chez Albin Michel La planète des chats. Jonathan Werber fait paraître chez Plon, Là où l'esprit ne dorme jamais. On attend le deuxième. Hein.
Moi aussi.
Voilà. Quant au prochain, Bernard, il est en cours d'écriture.
J'en ai terminé un, je ne sais pas s'il va être publié, parce qu'il est un peu bizarre. Il sort complètement de l'ordinaire.
Mais vous ne publiez que des livres étranges, Bernard.
Non, mais
Weber.
Il ne ressemble pas du tout à tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc j'attends l'avis. Là, je l'ai envoyé ce matin à mon éditeur. Et je lui ai dit, si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave, j'en refais rapidement un autre.
Pour l'instant, il n'a pas encore répondu.
Non, il n'a pas répondu. Mais j'aime bien que ce soit lui qui ait le dernier avis. Parce que moi, au bout d'un moment, je ne me rends pas compte de la... Comment dire ? Est-ce que je suis allé trop loin dans l'originalité ? Est-ce que je n'ai pas pris un trop gros risque ? Voilà.
On ne va jamais trop loin dans l'originalité. Ça, parole de lecteur. Merci infiniment d'avoir répondu avec tellement de générosité à toutes ces questions.
Merci à vous de nous avoir invités.
Et je vous dis à très très vite.
Merci.
Merci.
Juste après l'info, Stéphane Bern et Mathieu Noël vous attendent pour Historiquement Vôtre.